Au quotidien, avec Yvan Deslauriers.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous sommes jeudi 10 juillet. Je termine une très belle semaine avec vous. Et ça va être une super émission, vous allez voir. Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour Yvan Deslauriers.
Est-ce que vous êtes venu à vélo, vous?
Pas aujourd'hui, je suis à pied.
Vous êtes à pied? Pourtant, c'est une belle... Oh, quoi qu'il annonce la pluie en milieu
de... Oui, journée. Mais là, je fais beaucoup de crevaisons ces temps-ci, puis je suis un peu tanné. Fait que je fais comme l'ancien maire ou mairesse, je ne sais plus qui des deux. Je fais un cocktail de transport.
Ah, vous faites
un cocktail.
Je ne sais
pas si c'était un maire ou une mairesse. Je pense que c'était un maire.
J'en sais absolument rien.
C'est pas grave, en fait.
D'accord. Donc, vous êtes venu à pied. Moi, je suis venu à métro. Et j'ai Chantal Lavoie devant moi. Bonjour, Chantal.
Bonjour. Alors, moi, j'habite loin. Je suis venue en auto.
Oui?
Oui. Mais dans tous les cas, il y a des trous partout. Alors, je comprends que Mathieu est crevé. C'est-à-dire, elle fait pas mal de crevaisons ces derniers temps.
Alors, Chantal est là pour nous parler de musique classique à la fin de cette première demi-heure. Vous savez pas, Chantal, moi, j'écoute la musique classique à tous les samedis et tous les dimanches matin.
Absolument. Pourquoi le samedi-dimanche?
Juste
que
changer de rythme,
d'accord.
Pour commencer les samedis et dimanches plus en douceur, peut-être.
Mais c'est une excellente idée.
Alors, c'est comme si ma fin de semaine commençait aujourd'hui quand je vous vois devant moi.
C'est parfait.
Et on a Monique Kerouac aussi.
Oui, bonjour.
Bonjour, Monique. Alors, vous allez nous dire s'il faut prendre notre douche le matin ou le soir.
Oui, exactement. C'est un article qui a retenu mon attention parce que je trouvais ça, c'est une question, en fait, cruciale dans notre vie.
Cruciale, oui, vraiment.
Parce que ça fait partie de notre hygiène de vie.
Oui, oui.
Mais entre autres, on va aussi parler de l'hygiène et de la fréquence à laquelle on devrait aussi laver notre literie. C'est étroitement lié tout ça, Yvan. Et c'est une chercheure de l'Université de Leicester qui se trouve en Angleterre, qui s'appelle Primrose Freestone, qui a écrit un article qui a été publié dans La Conversation.
Mm-hmm.
Et je vais aussi vous lire, vous faire part d'un article qui parle de l'apprentissage de nouvelles langues.
Et vous allez nous le dire dans quelle langue?
Ah ben je vais vous le dire en français parce que je pense que c'est la langue de notre auditoire.
Oui, oui.
Et en fait, c'est l'état d'esprit dans lequel on se met qui est important pour favoriser cet apprentissage.
Donc ça, c'est en deuxième demi-heure. En troisième demi-heure, je vais parler avec Yannick Richard. Yannick Richard, c'est une personne qui est atteinte de la SLA. Et j'ai connu quelqu'un de très, très proche qui est décédé de cette maladie-là. Alors, c'est quelque chose pour moi qui est très, très sensible. Et il a décidé de traverser le Canada en fauteuil roulant. Hier, je vous ai parlé de quelqu'un qui l'a fait à vélo, mais aujourd'hui, c'est en fauteuil roulant. 4500 km en 35 jours, en fauteuil roulant motorisé quand même, là. Mais... Alors, ça va être je m'attends à une très belle conversation avec Monsieur Richard. Donc, c'est pas mal le contenu de notre émission d'aujourd'hui. Vous avez vu que c'est pas mal rempli. Et ça commence avec quelque chose de l'été. Tiens.
Nous partirons tous deux dans ma belle Camaro bleue à ciel ouvert sur la Trans-Canada entre les arbres verts. Nous filerons vers Vancouver tout droit, la tête dans mon cou comme cinérama. Le paysage sourira sur nous. Une main au volant, l'autre sur tes genoux, je prendrai mon élan. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco, soleil de touche nos fronts brûlants, nos cheveux longs flottant dans le vent. Et attention, nous nous envolons comme des airs volants. Et dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Dans la nuit noire, à 100 000 à l'heure, je t'en ferai voir de toutes les couleurs. Et au matin, sur notre chemin, il pleuvra des fleurs. Quand l'été reviendra, nous partirons tous deux dans ma belle Camaro bleue. À ciel ouvert, j'irai chercher là-bas, jusque Diable Vauvert, tous les étés de l'univers. Pour toi, nous irons faire l'amour sous des soleils de feu, quelque part où le ciel est bleu. Toujours, et si la terre est ronde, nous roulerons autour vers l'autre bout du monde. Et dans ma Camaro, je t'emmènerai chemin d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Soleil de plomb sur nos fronts brûlants, nos cheveux longs flottant dans le vent. Et attention, nous nous envolons comme des cerfs-volants. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Dans la nuit noire, 100 000 à l'heure, je t'en ferai voir de toutes les couleurs. Et au matin, sur notre chemin, il pleuvra des fleurs. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Soleil de plomb sur nos fronts brûlants, nos cheveux longs flottant dans le vent. Et attention, nous nous envolons comme des cerfs-volants. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Dans la nuit noire, à 100 000 à l'heure, je t'en ferai voir de toutes les couleurs. Et au matin, sur notre chemin, il pleuvra des fleurs.
Ben oui, c'est l'été, il pleut des fleurs.
Oui, oui, oui.
Les chemins d'été, une reprise de Marc-André Fortin.
Oui, c'est Steve Fizet hein, qui oui. l'avait chanté au début. Et c'est probablement la chanson, quand on pose des quiz, c'est probablement la chanson qui est la plus manquée. Le titre de chanson qui est le plus manqué.
Ben oui, c'est sûr.
Dans ouais. ma Camaro, ouais. non, mais c'est pas ça, pas en tout.
Les gens disent souvent dans ma Camaro.
Oui, et ils se trompent. On l'a reçu ici. Alors, Marc-André Fortin, si les gens, je pense, c'est qui ça? Il a gagné Star Academy, la deuxième version de Star Academy en 2005. Alors, j'étais très heureux, M. Mathieu, de vous trouver cette affaire-là aujourd'hui. dans les unes, je vais passer rapidement les unes pour qu'on aille vers la musique classique, mais... en direct de la presse plus, il y a une nouvelle, je pense, qui vaut la peine d'être mentionnée. Dans la tournée Got Back, Paul McCartney sera en spectacle 2 soirs à Montréal au mois de novembre. La tournée Got Back, probablement, il faudrait. Ben, je ne peux pas demander à Paul McCartney, mais c'est Get Back, Got Back, je ne sais pas. Il y a sûrement un lien là. C'est enrichi de 19 nouvelles dates jeudi, parmi lesquelles 2 arrêts au Centre Bell à Montréal les 17 et 18 novembre prochains. Évidemment, je ne sais pas comment c'est pas écrit comment on peut se procurer des billets, mais on devrait le savoir très, très, très bientôt. Dans les unes, dans le Devoir, le projet d'usine de GNL de gaz naturel liquéfié, Marine Vest, veut ses propres éoliennes. Ils prétendent qu'en produisant leur énergie elle-même, l'entreprise promet un projet d'usine carboneutre à Baie-Comeau. C'est un peu ironique quand même de faire que l'usine soit carboneutre, mais c'est pour produire du gaz naturel liquéfié. Alors, c'est ce que les experts rappellent dans cet article, que l'industrie des énergies fossiles nourrit la crise climatique. Ensuite, on ne dit pas tous égaux devant le tribunal administratif du logement. C'est un article qui montre que, dans certains cas, on déplore que les propriétaires soient parfois avantagés devant cet organisme gouvernemental. Et j'en ai parlé cette semaine de cette nouvelle-là, puis on en parle aussi dans la presse. C'est l'histoire des jeunes militaires qui ont été arrêtés pour possession d'armes, tout ça. Et le père d'un des militaires, j'en avais parlé d'ailleurs le mardi, et dans tous ces états, dans la presse, on dit un père sous le choc. Dans le Devoir, on dit « Les proches d'un homme accusé d'avoir facilité une activité terroriste font valoir qu'il s'adonnait plutôt à la pratique du MILSIM, c'est-à-dire le Military Simulation. » Donc, en principe, c'est un jeu. C'est pas un jeu virtuel, c'est un jeu de physique là, où on se déplace sur des terrains pour faire semblant qu'on fait un raid avec des tirs et toutes sortes de choses. Alors, je ne sais pas si c'est à suivre ou pas, mais ça prend de la place dans l'actualité. Et je voulais terminer ce parcours par quelque chose qui touche autant les très grandes entreprises que nous, les particuliers. Dans la presse, on parle de fraude aux dépens de Hydro-Québec. Hier, des enquêteurs ont trouvé la trace de gens qui ont fraudé Hydro-Québec en se faisant passer pour des fournisseurs. Et ils leur envoyaient, ils ont hacké, si on veut, ils ont pris l'identité d'un fournisseur, ils ont pris son identité et ils ont envoyé des factures à Hydro-Québec. Comme c'était un fournisseur, bien, Hydro-Québec payait, mais ils ont payé pas mal. Ils ont payé pas loin de 500 000 $, un demi-million de $. Et là, on aurait retrouvé la trace. Dans le Journal de Montréal, on parle de guerre aux fraudeurs, épidémie de faux textos. On dit que les autorités mettent en garde le public contre une recrudescence des messages textes où des fraudeurs n'hésitent plus à usurper l'identité des autorités policières, des livreurs de colis ou encore de Revenu Québec. Alors, on dit que faire lorsqu'on reçoit un texto frauduleux? D'abord, il faut quand même réaliser qu'il est frauduleux, pour une part. Mais si on ne connaît pas trop la provenance, on n'est pas sûr. C'est très, très rare que les autorités nous communiquent avec nous de cette façon-là. Ne cliquez jamais sur un lien suspect. Vérifiez l'identité de l'expéditeur en le contactant, par exemple, avec son numéro officiel. Bloquez le numéro. Supprimez le message. Signaler le message texte indésirable au 7726 spam et rapporter le texto au Centre antifraude du Canada. C'est dans le Journal de Montréal. C'est que les fraudeurs, comment s'améliorent, c'est bizarre à dire, là, mais ils s'améliorent de plus en plus. Alors, c'est pas toujours facile pour nous de pouvoir faire la part des choses, mais en cas de doute, doutez. Alors, Chantal, le temps s'est arrêté.
Oui, tout à fait. Ça commence bien une fin de semaine, ça. Vous qui écoutez de la musique classique plus la fin de semaine. Mm-hmm. Alors, c'est magnifique. Hein. C'était Franco Fagioli. Alors, il sera pour la première fois au Canada au Festival de Lanaudière le 26 juillet. C'est un contre-ténor argentin qui sera accompagné de l'Opéra Royal de Versailles, ensemble qui aussi sera à sa première au Canada.
Alors,
c'est
vraiment...
Première visite, tout à fait. Mm-hmm. Alors, vraiment, c'est tout à fait sublime. C'était du Handel, c'était Ombra Mai Fu. Voilà. Et puis, bon, parlant du Festival de Lanaudière, tu sais, Yvan, bon, avec Hélène, on a parlé beaucoup de tous les festivals qui étaient en cours, là, je pense au Festival Orford Music dans les cantons de l'Est. On se promenait du côté de Charlevoix, le Festival international du domaine Forget. Il y a Camac aussi qui offre des concerts du dimanche. Ça, c'est un camp musical et qui offre aussi des concerts du dimanche. Alors ça, c'est dans les Laurentides, dans Harrington, c'est près du Berdeau, dans ces eaux-là.
Oui, oui, oui.
Et puis, il y a Quartum qui sera là en fin de semaine. On va terminer avec eux, cet ensemble vocal a cappella, magnifique. Hein? Mm-hmm. Alors, donc, un beau quatuor là, et de voix comme ça, d'hommes. Et alors, on va les entendre tantôt. Mais là, je vais vous parler du Festival de Lanaudière. Donc, vous savez, si on remonte à la petite histoire, là, 1978, première édition du festival, c'est le père Fernand Lindsay qui est allé, bien sûr, en Europe, a vu des festivals un peu partout et puis a décidé de réaliser son rêve. Alors, première édition de ce festival. Ça se passait à la cathédrale de Joliette, dans les églises de la région. À part ça, ben, là, il assure la direction artistique. Il va assurer la direction artistique et la présidence jusqu'en 84. Et puis, en fait, construction de l'amphithéâtre de Lanaudière en 88. Alors, ce bel amphithéâtre qui peut réunir 2000 personnes sous le toit et 4000 personnes sous la pelouse. C'est dans le beau parc Georges Rondeau, donc dans la région de Joliette. C'est magnifique. Hein?
Oui, d'ailleurs, la pelouse est en pente. Hein?
Oui, alors c'est parfait.
C'est comme un amphithéâtre naturel.
Mais oui, absolument. C'est un amphithéâtre naturel, tout à fait. Et puis donc, l'inauguration se fait en 89. Le soir de la première, on va faire une ovation de 15 minutes au début du concert. Alors, on apprécie, bien sûr. Et puis, bon, il va y avoir de la succession au niveau de la direction générale, François Bédard, entre autres. Et puis, le 25e anniversaire, ce sera en 2002. Et puis, bon, il y a Alex Benjamin aussi qui va passer par là, lui qui était quand même impliqué. Il y a le décès en 2009 du père Fernand Lindsay. Alors, on va lui faire tout un... évidemment, une cérémonie à la cathédrale de Joliette. Et 2010, bon, ça devient officiellement l'amphithéâtre Fernand Lindsay. On comprend pourquoi.
Bien sûr.
Et puis 2018, c'est Renaud Loranger qui assure la direction artistique du festival jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est quelqu'un qui donc a beaucoup travaillé aussi à l'étranger, mais qui est originaire de la région. Alors, c'est intéressant. Et puis, il nous arrive toujours avec une belle programmation et ça fait pas exception cette fois-ci. Alors, c'est... On a parlé de Franco Fagioli qui sera là le 26 juillet à l'amphithéâtre, mais il y a aussi ce samedi 12 juillet, on fait dans la musique contemporaine, alors c'est le collectif 9 qui sera là à 19h ce samedi. Alors vraiment, ça fait près d'une décennie qu'ils ne sont pas venus, quoique ils se produisent quand même ici un peu partout là.
Mm-hmm.
Et alors des œuvres de Nicole Lisée, une compositrice canadienne de musique contemporaine, il y en a bien d'autres. Il y a Chanticleer, ça c'est de la polyphonie, des œuvres a cappella par un ensemble qui en est à sa première visite au festival aussi. Et donc, un survol de la tradition chorale déployée sur 5 siècles de la Renaissance à nos jours. Ça, c'est dimanche.
Ce dimanche.
Et oui. Il y a les Violons du Roi qui vont nous revenir le 25 juillet, toujours à l'amphithéâtre, avec une violoncelliste argentine aussi, Sol Gabetta, qui en est son seul concert qu'elle va donner au Canada. C'est au Festival de Lanaudière. Il y a Kent Nagano qui sera là, retour de Kent Nagano, à l'amphithéâtre le 1er et 2 août. Alors, ce sera la fin de semaine au complet.
On a une petite histoire d'amour avec Kent Nagano.
Ah oui, ben, de toute façon, il revient régulièrement
puis lui
à la
aussi.
Maison symphonique. Oui, il a ce...
on sent ça.
C'est le chef émérite. Hein.
Oui.
Il sera toujours le bienvenu. Et on va terminer cette programmation le 3 août, toujours à l'amphithéâtre. Tristan et Isolde, l'apothéose finale. Ça, c'est avec l'Orchestre métropolitain sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. L'an passé, on avait présenté l'opéra Aïda. Alors, ça avait été vraiment très apprécié. Donc là, on remet ça avec Tristan et Isolde. Alors, vraiment, répertoire wagnérien, donc colossal poème d'amour. Il y a toute une série dans les églises aussi. D'ailleurs, cette semaine, j'ai vu l'ensemble Méditerranéa avec Leonardo Garcia Alarcón, un magnifique concert qui était donné à l'église Saint-Jacques. Une magnifique église. Ça nous fait apprécier tout notre patrimoine également. C'est ça, exactement, Yvan, c'est ça qui est merveilleux. Et à l'église de Saint-Alphonse de Rodriguez, ce soir, il y a Christian Tetzlaff, que j'avais vu il y a longtemps, mais qui est de retour. Ça faisait un petit moment qu'il n'était pas venu, depuis 2019. C'est un violoniste incroyable, spectaculaire. Alors, il va jouer l'intégrale des sonates et partitas pour violon seul de Jean-Sébastien Bach. Alors, il y en a bien d'autres. Il y a Marc-André Hamelin, que je veux voir aussi à l'église de Mascouche, là, le 31 juillet, c'est la semaine prochaine, à l'église de Mascouche avec le quatuor Dover.
Oui, j'ai... Dans ma vie, à un moment donné, j'ai chanté en chorale.
Oh oui, c'est merveilleux. Donc, vous avez toute
l'acoustique des églises, c'est fabuleux.
Ouais.
Et c'est un plaisir pour les yeux, évidemment. Puis on va de moins en moins souvent dans les églises. Mais l'acoustique, là, c'est un plaisir pour les yeux et les oreilles en même temps.
C'est sûr, puis dépendamment des endroits, c'est sûr, ça peut être un grand vaisseau parfois, puis ça peut être... Mais comme à l'église Saint-Jacques, là, le chef Leonardo... j'avais son nom là, mais je viens de le dire tantôt. Oui. Là. Mais Leonardo Garcia Alarcón, voilà, disait justement que c'était fabuleux l'acoustique qu'on avait dans cette église-là. Mm-hmm. Et vraiment, les voix ont sorti à merveille. C'était fantastique. Et puis, c'est ça. Donc ça, je parlais de Marc-André Hamelin, ce grand pianiste qui sera de retour, mais cette fois avec un quatuor à cordes. Alors ça, c'est intéressant parce que ça fait changement. On l'entend souvent juste au piano, mais avec un orchestre. Mais là, ça va faire différent. Alors, c'est vraiment un beau festival qu'il ne faut pas manquer cet été. Alors,
c'est tout près.
C'est tout près. Et oui, effectivement, ça se fait très bien.
Oui, on peut aller et revenir à la maison dans la même soirée.
Là, il y a aussi du cinéma en plein air. Oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie. Il y a du cinéma en plein air et ça, c'est gratuit, stationnement gratuit également, ces soirs de cinéma en plein air. Donc, justement, ce soir, 20h, c'est le fameux film Boléro là, sur Maurice Ravel.
Oui.
Je ne sais pas si tu as vu le film, mais enfin, c'est à l'époque où il reçoit d'une danseuse, une commande pour faire une composition originale, et ce sera le fameux Boléro de Ravel.
Non, je ne l'ai pas vu, mais c'est magnifique. Tu me donnes vraiment le goût. Là.
Alors, c'est ça, c'est présenté à l'amphithéâtre, et puis il y a des activités gratuites. Il y aura journée porte ouverte également le 20 juillet. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on peut visiter l'amphithéâtre, il y a toutes sortes d'activités gratuites, on peut apporter notre pique-nique. Et il y a les idées heureuses qui sont là sur scène, alors qui vont vous faire une sorte d'histoire du baroque. Là. Alors, c'est ça. Bon, alors ça, c'est pour Lanaudière. Et ensuite de ça, il y a aussi, je voulais vous parler de l'Orchestre de la Francophonie, parce que ça, ce sont l'Orchestre de la Francophonie accueille tout au long de l'été des jeunes musiciens et musiciens diplômés d'établissements de renom qui sont aussi bien d'ici que d'ailleurs. Et on va leur faire vivre une expérience d'orchestre. Alors vraiment, on a beau être diplômé, être un musicien hors pair, mais de vivre l'expérience d'orchestre et puis d'être formé aussi, d'avoir une formation à ce niveau-là, c'est intéressant. Et en même temps, on a un concours de direction d'orchestre qui se passe parce qu'on va trouver le successeur de Jean-Philippe Tremblay, qui est à la fois le directeur artistique et chef de l'Orchestre de la Francophonie. Alors là, justement, il y a deux concerts avec les finalistes à l'orchestre là, qui ont été donnés, déjà deux concerts qui ont été donnés. Mais le 20 juillet, ce sera à la salle Pierre-Mercure, Julien Proulx. Alors, Julien Proulx, qui est déjà directeur d'orchestre, l'orchestre de Drummondville notamment. Alors, il fait plein de choses. Mais alors, ça, c'est le public qui va voter en plus. Alors, c'est participatif, c'est intéressant.
Oui,
alors,
puis j'entendais Dina Gilbert cette semaine dans une entrevue. Oui. Elle préfère le mot, en anglais, c'est conductor.
Oui.
Celui, la personne qui conduit.
D'accord.
Elle préfère cette appellation-là que chef d'orchestre, qui a l'air un peu...
Oui, je comprends. Ça donne ampoulée ou je ne sais pas trop.
Oui,
là.
Tout à fait.
OK, ben, ça peut être une façon de voir les choses, tout à fait. Et puis, je ne sais pas combien il me reste de temps, mais je voulais vous parler du Festival d'art vocal de Montréal. Un peu le même principe. C'est un festival, mais c'est l'Institut canadien d'art vocal qui offre aussi, l'été, une formation de haut calibre aux meilleurs chanteurs émergents canadiens et internationaux. Alors, c'est chaque été à Montréal. Par la même occasion, il présente au public un programme varié dans le cadre de ce Festival d'art vocal de Montréal. Alors, ça se poursuit jusqu'au 27 juillet. C'est la 21e édition. Et puis, on aura la flûte enchantée de Mozart avec l'orchestre de la francophonie, justement. Et ça, c'est le 27 juillet. Et puis, ben, évidemment, il y a aussi l'audition qui sera présentée le 13 juillet. Et ça, c'est comme une véritable audition. On va auditionner des futurs chanteurs d'opéra, là, avec l'orchestre de la francophonie. Donc, une expérience unique en son genre. Vous pouvez y participer. Et ces concerts-là ont lieu à la salle Claude Champagne à Montréal, à l'Université de Montréal. Alors, c'est vraiment intéressant. Il y aura le 24 juillet un gala d'opéra également. Je pense que ça se passe aussi à la salle Claude Champagne. Mais il y aura aussi le 27 juillet la flûte enchantée de Mozart. Alors, c'est ça. Je pense que je l'ai dit. Oui, c'est ça. L'ai dit.
C'est bon.
Mais voilà. Ben, en tout cas, il y a plein de choses à voir cet été. Et ça se poursuit. Évidemment, je ne serai pas en peine.
À voir et entendre.
Oui, je ne serai pas en peine. Là, on va entendre Quartum.
On se quitte avec Quartum.
Qui sera présenté dimanche au centre Camac, oui, dans les Laurentides. Alors, c'est à 11h. Après ça, vous pouvez aller prendre le brunch. C'est magnifique.
Ou faire un pique-nique.
Ça. Dimanche, 11h.
Mais Quartum, ça vaut vraiment la peine.
Oui, exactement. Vraiment. Alors, c'est vraiment à entendre.
Merci, Chantal
Merci.
Lavoie.
Je t'aime. God bless you, please, Mrs. Robbins. Heaven's a place for those who pray. Hey, hey, hey.
Alors, on se quitte sur cette belle musique et au retour, on parle avec Monique Kerouac. À tantôt.
Vous écoutez Au quotidien avec Yvan Deslauriers.
Des arbres se penchent, c'est plus fort que tout. Accroché aux branches, l'air me semble encore trop doux. Dans l'herbe écrasée, à compter mes regrets. J'attends que mes larmes viennent, et quand la pénombre dure, que jamais rien ne m'atteigne. Ce soir-là, sans se parler, autour de nous le monde aurait pu s'écrouler, les yeux cernés de poussière dans les cheveux, au long de mes jambes la caresse. Que les chambres j'attends que mes larmes viennent, et quand que les chambrées. J'attends que mes larmes viennent. Et quand la pleine en dit que jamais rien ne m'atteint, pendant que les chambrées, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la pleine en dit que jamais.
C'était la chanson « Pendant que les champs brûlent » du groupe Niagara, mais ici chantée par Joran.
Wow! Et je me tourne vers Monique Kerouac. Et Monique, souvent dans vos chroniques, j'apprends des choses que je ne fais pas correctes.
Je ne veux surtout pas vous traumatiser, Yvan.
Non, non, mais vous améliorez ma vie constamment.
Ah ben c'est bien, c'est bien.
Alors est-ce que je prends ma douche le matin ou le soir?
Ben voilà, ben c'est un microbiologiste qui va répondre à ça. Primrose Freestone, qui en fait est maître de conférence à l'université Leicester. Alors il nous dit que c'est une question qui fait débat depuis longtemps. Les adeptes de la douche matinale diront que c'est la meilleure solution, parce qu'elle permet de se réveiller puis oui, de commencer la journée en beauté. Les adeptes de la douche nocturne, en revanche, ben, affirment qu'il est préférable de se débarrasser de la journée et de se détendre avant d'aller se coucher. Mais que disent les recherches, Yvan? Ben, en tant que biologiste, Primrose Freestone peut nous dire qu'il existe une réponse claire à cette question. Alors, c'est ce que l'article va nous révéler. Pardon. Mm-hmm. Par ailleurs, avant toute chose, il faut rappeler qu'une bonne hygiène repose en partie sur une douche régulière, peu importe le moment de la journée.
Ah bon?
La douche, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous aide à éliminer la saleté et le sébum de notre peau, contribuant à prévenir les éruptions cutanées et les infections. La douche permet aussi d'éliminer la sueur, ce qui peut atténuer les odeurs corporelles. Alors, contrairement à une idée reçue, la sueur en elle-même n'a pas d'odeur. Ce sont les bactéries présentes sur notre peau, notamment les staphylocoques, qui en sont responsables. Elles utilisent la sueur comme source de nutriments et, en la décomposant, libèrent des composés soufrés appelés thioalcool, à l'origine de cette odeur corporelle âcre bien connue. C'est horrible de se retrouver dans un cinéma derrière une personne qui dégage cette odeur, n'est-ce pas?
C'est un film de 3 heures.
Oui, c'est ça. Alors, pendant la journée, votre corps et vos cheveux recueillent inévitablement des polluants et des allergènes comme la poussière et le pollen. En plus de l'accumulation habituelle de sueur et d'huile sébacée. Si certaines de ces particules seront retenues par nos vêtements, d'autres seront inévitablement transférées vers nos draps et têtes d'oreiller. De plus, la sueur et l'huile produites par notre peau nourrissent les bactéries de notre microbiome cutané qui peuvent ensuite se transférer sur notre literie. Se doucher le soir peut bien sûr éliminer une partie des allergènes, de la sueur et de l'huile accumulée pendant la journée, de sorte qu'il y en a moins sur nos draps de lit. Par ailleurs, même si nous avons pris une douche avant de nous coucher, ben, nous continuons à transpirer pendant la nuit, quelle que soit la température. Les microbes de notre peau se nourrissent alors des nutriments contenus dans cette sueur. Résultat, au matin, ben, nous aurons tout de même laissé des microbes sur nos draps et peut-être un peu d'odeur corporelle.
Vous êtes en train de dire qu'il faut se doucher avant et après le coucher.
Ben, moi, c'est la conclusion à laquelle j'arrive, mais c'est pas celle de la chercheure. Si nos draps ne sont pas régulièrement lavés, une douche du soir perd alors une partie de son efficacité. Parce que les microbes odorants présents sur le linge peuvent se redéposer sur notre corps propre durant la nuit. Bon, là, il faut pas laver nos draps tous les jours, hein, Yvan. D'autre part, se doucher le soir n'empêche pas les cellules mortes de se détacher de notre peau. Ces résidus nourrissent les acariens, dont les déjections peuvent provoquer des allergies ou aggraver l'asthme si les draps sont insuffisamment entretenus. Les douches matinales, en revanche, permettent d'éliminer les cellules mortes de la peau, ainsi que la sueur et les bactéries accumulées dans les draps pendant la nuit. Donc, cela peut s'avérer particulièrement utile si notre literie n'a pas été récemment lavée. Une douche matinale signifie que notre corps sera débarrassé des microbes cutanés accumulés pendant la nuit lorsque nous enfilons des vêtements propres, neufs. Nous commencerons également la journée avec moins de sueur dont se nourrissent les bactéries productrices d'odeurs, ce qui nous aidera probablement à sentir plus frais plus longtemps dans la journée que quelqu'un qui s'est douché le soir. Alors, en tant que microbiologiste, Primrose Freestone est favorable à la douche de jour. Cela dit, chacun a ses préférences. Et puis, on pourrait rajouter, Yvan, que tout dépend de la saison aussi, hein? Mm-hmm. Si l'été, il fait très chaud le jour et qu'on a transpiré, peut-être prendrons-nous une douche le soir et le lendemain matin aussi.
Ou à d'autres moments aussi.
Ah ben, tout à fait, tout à fait. quel que soit le moment que nous choisissons, n'oublions pas que l'efficacité de notre douche est influencée par de nombreux aspects de notre hygiène personnelle, comme la fréquence à laquelle nous lavons nos draps. Pour une bonne hygiène, draps et têtes d'oreiller devraient être lavés au moins une fois par semaine. Cela permet d'éliminer la sueur, les cellules mortes, les bactéries et les résidus d'huile qui s'y accumulent. Le lavage élimine aussi les spores de champignons qui peuvent se développer sur le linge de lit, ainsi que les nutriments dont se nourrissent les microbes responsables des mauvaises odeurs. Alors, notre chercheur nous dit le jour, mais c'est à chacun de décider ce qui lui convient le mieux et pourquoi pas une le soir, une le matin,
ben oui,
et ou l'après-midi, enfin. C'est ça. Chacun son plaisir de se doucher, mais n'oublions pas de laver nos draps et têtes d'oreiller au moins une fois par semaine.
Régulièrement. Oui, parce que moi, quand je prends ma douche le soir, mes cheveux sont pas beaux le lendemain matin.
Ben, je peux vous dire que ça m'arrive aussi, mais l'été, il n'est pas rare que je prenne une douche le soir et le matin.
Ben oui. Alors, on fait une mini-pause avant de parler d'apprentissage de langue.
Oui, tout à fait.
Alors, Mathieu, qu'est-ce que vous avez trouvé?
C'est Pierre Lapointe qui joue du satie.
C'est Pierre Lapointe?
Mm-hmm. La gnosienne numéro 1.
D'accord. De retour maintenant à Monique Hirouac, qui va nous parler d'apprentissage de langue.
Oui, exactement.
Je pensais que vous étiez sous la douche, là, vous. Hein?
Non, c'est parce que j'attendais que vous disiez.
Vous
alliez ajouter.
Vous pensiez qu'il y avait
chose.
Une question au bout de ça, vous, hein?
Alors, si vous hésitez lorsque vous devez parler à quelqu'un dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle, peut-être que vous pensez, oh, j'ai tout simplement pas le don pour les langues ou je ne suis peut-être pas fait pour apprendre une autre langue. Mais apprendre à utiliser une langue autre que notre langue maternelle peut paraître un défi de taille. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est capable d'apprendre une autre langue. Une partie importante de ce processus consiste à développer un état d'esprit qui nous aidera à réussir. Alors, les chercheurs Zhang et Noël étudient la motivation des gens à apprendre de nouvelles langues du point de vue de la théorie de l'esprit linguistique. Peut-être vous demandez-vous, mais qu'est-ce que c'est que cette théorie de l'esprit linguistique?
Vous lisez dans mes pensées.
Alors, cette théorie montre que ce que les gens pensent de leur aptitude joue un rôle dans l'apprentissage des langues. Et j'en rajouterais un rôle essentiel. Cette théorie concerne les croyances des apprenants quant à leur capacité à changer leur aptitude à apprendre et à utiliser les langues et la manière dont différentes croyances sont associées à différents résultats, y compris la maîtrise d'une langue. Si les apprenants pensent qu'ils peuvent améliorer leur capacité lorsqu'ils apprennent quelque chose de difficile dans une nouvelle langue ou lorsqu'ils n'ont pas obtenu de bons résultats dans certains aspects de l'apprentissage des langues, ils ne seront pas découragés par le fait que leur niveau actuel est faible. Les apprenants peuvent même considérer ces difficultés ou ces échecs comme des occasions d'apprendre quelque chose de nouveau et d'améliorer leurs compétences linguistiques. Ils restent optimistes et confiants quant à ce qu'ils peuvent potentiellement accomplir dans l'apprentissage des langues. Ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leurs compétences linguistiques tout au long du processus d'apprentissage, plutôt que de simplement survivre à l'interaction, obtenir une bonne note ou faire mieux que les autres. Lorsque j'enseignais les langues secondes, Yvan, je comparais souvent l'apprentissage d'une langue à l'apprentissage d'un sport. Par exemple, le ski. Si je tombe jamais en ski, peut-être que je ne ferai pas beaucoup de progrès.
Oui, c'est vrai. Tout à fait. Bon.
Ça fait partie du jeu, quoi.
Oui, oui.
La théorie de l'état d'esprit linguistique, qui concerne donc les croyances des apprenants quant à leur aptitude à apprendre et à utiliser les langues, peut être divisée en trois types de points de vue. L'intelligence linguistique générale, qui correspond à la croyance d'une personne, qu'elle peut changer sa capacité à utiliser la langue parlée et écrite pour s'exprimer et communiquer avec les autres. Les croyances concernant leur aptitude à apprendre une nouvelle langue, puis les croyances concernant le lien entre leur capacité à apprendre une nouvelle langue et leur âge. Si une personne pense que ces trois types d'aptitudes linguistiques sont innées et immuable, elle peut être classée comme un apprenant ayant un état d'esprit fixe. Si elle estime pouvoir améliorer un ou plusieurs des aspects de ses aptitudes linguistiques, en particulier ses aptitudes à apprendre une deuxième langue, elle peut être considérée comme un apprenant ayant un état d'esprit de croissance. En fin de compte, les apprenants ayant un état d'esprit de croissance sont susceptibles de devenir plus compétents dans la langue qu'ils apprennent qu'une personne ayant un état d'esprit fixe. Je pense que c'est logique.
Hein? Ça, est-ce qu'on peut déterminer ça à l'avance ou...
C'est comme je vous disais, changer ses attitudes pour avoir l'aptitude à apprendre. Mais il y a des gens qui pensent que non, d'où ceux qui ont un état d'esprit fixe.
Oui, ça bouge plus.
Ça bouge plus. Alors, si on se dit, ah ben oui, je pourrais peut-être apprendre cette langue-là, puis c'est pas grave si je fais des erreurs, bien là, on est plutôt dans l'esprit de croissance, tout simplement.
Oui, oui, je comprends.
Alors, bien que les applications numériques telles que Duolingo soit de plus en plus utilisé, les cours de langue restent un moyen courant d'apprendre une langue et les enseignants de langue peuvent aider les apprenants à développer un état d'esprit orienté vers la croissance. Les enseignants peuvent aider en rappelant aux apprenants qu'ils peuvent améliorer leur intelligence linguistique grâce à leurs efforts. Ça ne s'apprend pas tout seul, une langue, hein? Et pas juste avec un livre devant soi ou la déclinaison des verbes, par exemple.
Sûrement, oui.
Pour les devoirs et les tests à faible enjeu, les enseignants peuvent encourager les apprenants à prendre des risques et à relever de nouveaux défis et à profiter de ces moments pour apprendre quelque chose de nouveau. Les enseignants doivent également fournir des commentaires axés sur le processus d'apprentissage. Par exemple, les types de stratégies que les apprenants pourraient utiliser s'ils doivent travailler davantage et les ressources qui pourraient leur être utiles pour apprendre la langue. De cette manière, les enseignants transmettent un message important. Ils nous disent qu'il est normal de faire des erreurs. Et ce que font les apprenants dans le processus d'apprentissage est plus important que leur niveau actuel. Même lorsque les apprenants sont confrontés à des examens importants, les enseignants peuvent les aider à faire le lien entre le contenu des examens et l'utilisation de la langue dans la communication réelle. Si les enseignants parviennent à créer un environnement de classe qui favorise un état d'esprit axé sur la croissance linguistique, les apprenants seront plus enclins à poursuivre leur apprentissage de la langue. Si vous êtes un apprenant en langue et que vous pensez que vos aptitudes linguistiques sont fixes, il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Voilà une des réponses à votre question.
Oui, tout à fait, ouais.
Chaque fois que vous maîtrisez un nouveau mot, ben, vous acquérez une nouvelle notion grammaticale et que vous acquérez une nouvelle notion grammaticale et ou que vous parvenez simplement à faire passer votre message à une autre personne dans la langue que vous apprenez, ben, vous progressez et surtout vous en êtes super heureux.
Oui, il y a une fierté, oui.
Oui, c'est ça. Si vous avez du mal à apprendre un aspect particulier de la langue, bien, essayez d'utiliser une stratégie d'apprentissage différente. Trouvez des ressources qui peuvent vous aider ou accordez-vous simplement le temps, plus de temps pour pratiquer. N'oubliez pas que tout le monde est capable d'apprendre une nouvelle langue. Tout est une question d'état d'esprit linguistique.
Oui. Et si c'est possible de se trouver un nouvel ami ou une nouvelle amie dans une autre langue, ou même un amoureux ou une amoureuse?
Ah, c'est certainement la façon la plus efficace.
Un gros incitatif à ce moment-là.
C'est un gros incitatif, mais il ne faut pas qu'il y ait de tension. Hein. C'est ça le plus important.
Voilà. Alors, on fait une petite pause.
Sous le tapis du vent, voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales, un regard de l'océan. Voyage, voyage, plus loin que l'Indre et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, voyage, et jamais ne reviens. Chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, les cœurs bombardés, un regard de l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, voyage, et jamais ne reviens.
The Last Fingers, qui reprenait la chanson de Desireless, la chanson Voyage, Voyage.
Merci beaucoup. Et avec Monique, on va faire quelques brèves. Pour moi, Monique, l'art est presque toujours abstrait en passant.
Ah oui! Oh, l'art abstrait, c'est ce qu'on appelle la part du spectateur. Alors, face à des figures abstraites, notre cerveau complète ce que nous voyons. C'est lui qui donne son sens à l'œuvre d'art.
Ah!
Peut-être que c'est pas votre cas, mais généralement, cette vieille idée, en fait, ça date du 17e siècle et elle est aujourd'hui démontrée, Yvan, grâce à une vaste expérience d'imagerie cérébrale menée par des neuroscientifiques de l'Université Columbia. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont présenté 82 paires de tableaux à 30 personnes en proposant chaque fois une œuvre figurative. Ça, vous devez les comprendre.
Ça va bien.
Et une œuvre abstraite du même artiste. Puis, ils leur ont demandé d'écrire une légende pour chacune, tout en scrutant comment réagissait leur cerveau. Résultat, si tout le monde s'accorde sur ce que représente une œuvre figurative, dans le cas des œuvres abstraites, ben là, les interprétations, c'est à peu près normal, là, partent tous azimuts. Mm-hmm. Et les aires cérébrales elles-mêmes s'activent différemment, en particulier celles dites du mode par défaut. Alors ça, c'est face à l'œuvre abstraite, où se niche notre intériorité, la narration individuelle, la construction du sens et notre propre créativité. Donc, faut pas s'inquiéter. On voit ce que l'on voit, tout simplement.
Non, mais je suis pas vraiment inquiet, mais c'est souvent un peu difficile pour moi de comprendre.
Mais il faut pas comprendre, il faut ressentir, Yvan.
Oui, je vais garder ça en tête. Je m'en vais à Québec bientôt, là. Je vais garder ça en tête.
Oui, ça sera bien.
Alors... l'autre question que vous soulevez, en brève, j'ai eu une certaine perplexité. J'ai essayé toutes sortes de visages.
Ah oui, OK.
Oui, imite-t-on mieux le dégoût que le délice?
Ben, est-ce qu'on peut... En fait, la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment, par politesse, faire semblant de se régaler en se forçant à manger quelque chose qui nous dégoûte?
Ah oui, ça, je peux.
Alors, selon un trio de chercheuses japonaises qui a approfondi la question, la réponse est oui. Bon, alors vous êtes en harmonie. Oui. Mais l'inverse marche encore mieux. Une fausse moue dégoûtée est même plus convaincante qu'une vraie.
Ah oui?
Oui. Alors, six étudiants mobilisés pour l'expérience devaient singer tour à tour les deux types d'expressions, en buvant quelque chose qu'ils adorent, puis quelque chose qu'ils détestent. 33 autres étudiants et une intelligence artificielle devaient ensuite évaluer leurs expressions faciales sur une échelle de 0 à 100 et deviner si la boisson était bonne ou non. Humains et machines sont d'accord. Les fausses expressions de dégoût ont l'air plus authentiques.
Ah oui.
Oui. Aucune différence notable, en revanche, entre une vraie et une fausse expression de délice. Voilà.
Bon, je retiens
ça. C'est fascinant, ça, sur quoi les chercheurs peuvent se pencher.
Oui, ils se lèvent le matin et disent « qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? » Oui,
c'est ça. Mais il ne faut pas oublier, c'est parfois des neuropsychologues, neuroscientifiques.
Je comprends. Et on termine cette conversation avec la capsule linguistique.
Oui, alors est-ce que tous les pléonasmes sont-ils tous vicieux?
Bon, on peut les rendre, oui.
Oui, c'est ça. Mais le pléonasme, il faut se rappeler, Yvan, c'est la répétition, volontaire ou non, d'une information déjà énoncée dans la même phrase. Mm-hmm. Ça peut être une figure de style qui sert à créer un effet d'insistance, par exemple. Il est tout à fait correct de dire « je l'ai vu de mes propres yeux ». En revanche, un pléonasme est dit vicieux lorsqu'il n'ajoute rien à la force de l'expression et qui ne fait qu'annourdir la phrase. Le classique « monter en haut, descendre en bas ».
Oui.
Hein? Ce sont vraiment des pléonasmes vicieux. On pourrait aussi parler d'un pléonasme lorsqu'on parle d'une brève allocution. Parce que par définition, une allocution, c'est un discours bref. Donc, au lieu de dire que le ministre a prononcé une brève allocution, il suffit tout simplement de dire qu'il a prononcé une allocution. Si on veut contourner le problème, ben on peut juste dire « le ministre s'est brièvement adressé à l'auditoire ».
Oh mon Dieu, ben oui.
C'était pas trop vicieux, hein?
Non, ça allait. Mais je fais de l'activité physique. Ben ça, vous savez, ça, je fais de l'activité physique. Mais je fais du spinning et c'est souvent des animatrices qui ont toujours le même réflexe de dire, pour se lever sur nos pédales, elle nous dit « on se lève debout ».
Ah oui.
Là, dans ma tête, j'ai toujours « mais on peut-tu se lever autrement? »
Ah oui, c'est Voilà un bel exemple de pléonasme vicieux.
Merci beaucoup, Monique Kirouac. Est-ce qu'on se reparle cet été, je crois?
Écoutez, moi, je prends une pause. Je reviens le 14 août.
D'accord. Alors, peut-être. On verra.
D'accord. Alors, bonnes vacances.
Merci. Alors, c'est la dernière pause de l'émission. Au retour, on reparle avec Yannick Richard.
Vous écoutez Au quotidien avec Yvan Deslauriers.
Dans la conversation qu'on va avoir, la personne à qui je vais parler, qui s'appelle Yannick Richard, contemple la possibilité sérieusement de faire un total de 4500 km en 35 jours. Jusque-là, les gens qui m'écoutent vont dire « Ouais, on a déjà entendu ça, à vélo, à pied. » Mais ça, c'est en fauteuil roulant motorisé. C'est le défi que Yannick a décidé de relever en septembre. Il est père de famille de 50 ans. Il a été diagnostiqué par la maladie de la sclérose latérale amyotrophique. Vous connaissez peut-être plus la SLA. Et donc, Yannick habite Prévost et il veut enseigner à ses trois enfants l'importance de la résilience. Bonjour Yannick Richard.
Oui, bonjour Yvan.
Ça va bien?
Ben, ça va bien, merci.
Alors, ma première question est toujours un peu taquine, tu vas le voir. Donc, tu veux entreprendre ta traversée du Canada le 22 septembre pour, entre autres, de donner l'image à tes enfants de la résilience. Des enfants qui ont 12, 14 et 16 ans.
Oui, c'est bien ça.
Donc, tu leur fais manquer l'école.
Oui, malheureusement, nos plans ont changé, mais c'est quand même... pour une bonne raison. Moi, j'avais choisi le mois de juillet. Je m'étais dit, on va partir dans le bon temps. Les familles ne manqueront pas d'école. Mais on s'est rendu compte que, parce que je dois avoir un véhicule récréatif qui va me suivre,
oui. Mm-hmm.
Étant donné que je vais être en fauteuil roulant motorisé avec des batteries, durant la journée, il va falloir que je recharge les batteries. Fait qu'on va être obligé d'être suivi par un VR.
Oui.
Puis ça, c'est une location de 40 jours. Puis on a eu la chance d'avoir un commanditaire qui nous a offert gratuitement le VR, c'est Roulotte les Bikes.
Mm-hmm. À Drummondville, je pense. Hein?
Ils ont six maintenant, je pense. Ils sont un peu partout au Québec.
Mm-hmm.
Moi, je suis allé à Laval parce que c'est près de chez moi.
D'accord.
Puis c'était vraiment super. Là, et nous prêtent un VR tout équipé, mais c'est sûr que le mois de juillet, pour eux, c'était un peu moins possible. Alors, c'est la raison pourquoi on a décidé de bouger notre calendrier. Mais en fait... Mon neurologue m'a dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée parce qu'il allait faire vraiment chaud l'été.
Oui, oui.
Fait que c'est peut-être mieux d'enlever des couches là, si c'est possible. Là. Ouais.
Oui, tout à fait. Mais 12, 14, 16, ça, c'est tout au secondaire?
Oui, ouais, la dernière a commencé son secondaire en sport-études de basketball.
Oh, quand même, oui. Oui,
ouais. Fait que c'est une belle année. Lui du milieu est en sport-études vélo, puis la plus grande est là-bas à l'Académie La Fontaine.
Je comprends.
Ils sont vraiment très, très occupés par l'école, mais ça va leur faire plaisir de venir faire un petit 4-5 jours avant mon départ de 35 jours. Là.
Ouais. Le sport-études vélo, est-ce que ça lui a tenté d'apporter le vélo aussi?
Oui, certainement. On va emmener le vélo, puis en plus, quand je vais revenir le 25 octobre à la vieille gare de Prévost, mon neurologue puis mon fils, ils vont faire les 50 derniers kilomètres en vélo pour m'accompagner pour mon arrivée.
Wow!
Ouais. Fait qu'il y a d'autres mondes qu'on pourra joindre à nous aussi en vélo. Puis aussi, tout au long de la traversée dans d'autres provinces, on va inviter les gens qui sont touchés par la SLA à soit venir marcher, courir avec moi, puis même rouler en vélo.
Pour l'intérêt de nos auditeurs, on va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la SLA et comment elle t'affecte, toi.
Oui, bien en fait, la SLA, c'est une maladie qui est assez terrible. Là. C'est une maladie rare qui est incurable à ce jour. Ça fait 150 ans qu'elle existe, puis il n'y a aucun médicament qui peut la guérir. La SLA, ça commence généralement par une fête. Dans le fond, c'est parce que la transmission électrique à tes muscles se fait pas.
Oui.
Donc, tu perds l'atrophie de tes muscles en partant normalement soit des extrémités du pied, des mains ou de la parole. Fait que c'est vraiment une faiblesse musculaire qui commence d'un coup. Jusqu'à présent, ben, il y a 80 % des cas qui sont sporadiques, qu'on appelle 80-90 % des cas. Ça veut dire que personne ne sait pourquoi ça arrive.
Mm-hmm.
Puis il y a 10 % qui est héréditaire aussi.
Oui. Et moi, j'ai eu ma maman qui est décédée de la SLA. Puis on a comme décidé de ne pas vérifier si c'était héréditaire ou non.
Oui, c'est ça, c'est un libre arbitre.
La chance ou la malchance, je ne sais pas de le savoir plus tard.
Oui.
Comment ta famille immédiate et élargie a réagi suite à ce diagnostic-là?
C'est sûr qu'au début, c'était vraiment difficile avec les enfants. Là. On les a rassemblés au salon. On a essayé de rendre le moment, on avait une très mauvaise nouvelle à l'heure annoncée, mais on a essayé de rendre le moment quand même un petit peu heureux. Là. On avait préparé une petite fondue au chocolat pour après la nouvelle, là, qu'on transforme cette mauvaise nouvelle-là en quand même quelque chose qui est un peu plus beau.
Oui,
on a annoncé aux enfants que ça se pourrait que je meure dans les six prochains mois ou les deux premières années parce que c'est la durée de vie, c'est 2 à 5 ans.
2 à 5 ans, oui. Le fameux 2 à 5 ans, oui.
Oui. Fait que c'est ça qu'on leur a annoncé, que j'allais perdre ma mobilité progressivement, assez rapidement.
Mm-hmm.
Puis qu'il allait falloir se préparer à changer tout ce qui est dans la maison, adapter toute la maison.
Mm-hmm.
Puis qu'à un moment donné, ben, je ne serais plus capable de bouger mes jambes, mes bras et parler à la fin de vie. Mais tu as juste tes yeux qui bougent.
Mm-hmm.
Alors, tu as vraiment besoin d'aide de tout le monde alentour de toi, là. Ta conjointe, présentement, c'est ma belle famille parce que mes parents sont décédés. Mais c'est vraiment tout le monde autour de toi devient presque un proche aidant.
Oui.
C'est vraiment important d'être bien entouré. Là.
Oui, vraiment, vraiment. Mais toi, tu as connu un médicament qui permet pas de guérir la maladie, il faut bien le spécifier, mais qui permet d'en contrôler la progression. Est-ce que ton neurologue t'en avait parlé au moment où il t'a annoncé le diagnostic ou c'est venu par après?
On a fait des tests plus tard. Ça avait pris environ 4 mois à découvrir que j'ai la forme SOD1 qu'on appelle. Cette forme-là a été identifiée il y a 35 ans. Puis c'est surtout à cause du Ice Bucket Challenge qui a fait qu'il y a eu plus de 100 millions de dollars investis en recherche.
Oui, oui, oui.
Fait que le 10 ans, fait que ça l'a fait débloquer la recherche. Puis ils ont commencé à vu qu'ils étaient capables de cibler la raison. Fait qu'ils ont développé un médicament depuis 10 ans. Puis moi, quand on l'a su, le médicament venait de sortir pour à toute la population il y a quelques mois. Fait que j'ai eu la chance de le commencer immédiatement. Puis, ça a pris 8 à 9 mois avant que ça stabilise la maladie. Ça fonctionne sur 1 personne sur 2. Puis, pour moi, j'ai vraiment la chance que ça fonctionne. Là. C'est vraiment un miracle.
Mm-hmm.
Un coup, tu reçois ça. Moi, je me fais injecter à tous les 28 jours dans la colonne vertébrale. Le médicament, il va empêcher la mauvaise protéine d'empoisonner mon corps.
Mm-hmm.
Puis, on répète ça tous les 28 jours. Là. Une nouvelle injection à tous les 28 jours. Ça va être comme ça toute ma vie. Mais ça me permet, là, j'étais presque plus capable de me déplacer. Là, je suis en fauteuil roulant, mais j'étais presque plus capable de me déplacer pour aller prendre ma douche. Je me disais, dans 2-3 mois, il va falloir que je me fasse faire aider pour mes soins corporels à manger.
Oui.
Mais ça l'a comme stabilisé. Là. Je dirais que depuis un an et demi, c'est comme à 95 % stable. Ouais.
Fantastique. Est-ce que toi, tu étais une personne... Tu dis que tes enfants sont en sport... Mm-hmm. Deux de tes enfants sont en sport-études. Est-ce que toi, tu étais un sportif?
J'étais un ancien sportif, comme on peut dire. Mais je suis quelqu'un qui sortait tout le temps beaucoup, là, aller dans le festival, aller marcher dans le bois. Je restais jamais à la maison. Là. On était toujours en train de faire quelque chose. Fait que les 3 enfants avec les sports en plus, en dehors des sports-études, ça t'est vraiment occupé. Fait que j'étais tout le temps quelqu'un qui avait... assez actif. Puis même encore aujourd'hui, en fauteuil roulant, moi, je suis tout le temps dehors. Là. Je suis tout le temps parti. j'arrête pas, là. Ma chaise, il faut tout le temps la régler. Là, parce que c'est pas évident dans la rue. Là.
Oui.
Je me promène avec des petits moteurs adaptés. Maintenant, c'est ça qui est le fun. Là. Je me trouve vraiment chanceux dans l'époque qu'on est parce que beaucoup d'adaptations là, qui sont possibles.
Oui.
Maintenant, je suis pas obligé de me pousser quand j'avance dans la rue. Là. J'ai un petit moteur qui me traîne. Là. C'est vraiment merveilleux, là.
En fait, comme moi, j'ai un vélo à assistance électrique, toi, tu as un fauteuil à assistance électrique, toi.
C'est ça. On peut aller vraiment beaucoup plus loin, là. C'est intéressant.
Mais parlons de ton défi qui commence en Colombie-Britannique. Est-ce que vous avez spécifié l'endroit maintenant?
Oui, ça va être à Yoho Park.
OK.
En fait, vu que le voyage, c'est 35 jours, puis moi, je reviens vers Prévost. Mm-hmm. Je voulais pas partir de Vancouver, j'aurais aimé ça, mais ça m'aurait trop rallongé. Puis étant donné que j'ai une maladie, qu'il faut pas que je fasse d'effort,
oui.
On court quand même un risque déjà de le faire pendant 35 jours.
Oui, effectivement. Ça
fait que je vais comme partir sur le bord de la Colombie-Britannique pour avoir fait cette province-là, à Yoho, puis on va continuer vers Banff. Puis après ça, mes enfants, ma conjointe va passer 4 jours avec moi avant. Puis le 22 septembre, ben là, je pars de Yoho. Avec le VR, puis c'est des amis d'enfance qui vont conduire le VR, ils vont se relayer tout au long de la route. Puis là, moi, je vais partir avec le moteur motorisé, puis on ne va pas arrêter le trafic. Là, moi, je vais rouler comme tout partout ce qu'un vélo passe. Là.
Oui. Moi, j'ai déjà fait les Rocheuses une fois à vélo, puis une fois en auto.
Okay.
Mais je peux te dire que c'est pas plat. Pour une chose.
Oui.
Puis je me posais la question, est-ce que le moteur électrique de ton fauteuil est assez fort pour te monter dans des montagnes?
Ben oui, c'est sûr que ça va être un bon test qualité, comme on dit, en même temps, parce que j'ai eu une commande d'outils pour le moteur puis pour un fauteuil roulant qui vient du Québec. Par contre, le moteur, lui, c'est une entreprise du Québec, mais qui fait venir d'Italie. Fait que j'ai vraiment le gros modèle qui roule à presque 40 km heure. Il va falloir que je mette un casque, là, parce que ça roule vite. Puis, on va avoir on a aussi un kit de rechange de batterie. Ça devrait être bon pour faire 150 km par jour.
OK. C'est...
Ouais. Ça va être 5-6 heures de route par jour, ça.
Ça, c'est... Ben, j'espère que tu vas avoir du beau temps tout le temps. Souvent, le vent vient de l'ouest, alors ça, déjà, c'est pas pire.
C'est mieux,
oui. Puis, garde les yeux bien ouverts, parce que c'est tellement beau.
Ah oui, mais
en passant.
Ouais.
Est-ce que tu dois te préparer d'une certaine façon, autant physiquement que la logistique, là, je l'entends, là, mais y a-t-il une préparation particulière?
Ben, la préparation, c'est sûr que je fais des petits tests pour voir si les batteries vont durer assez longtemps.
Ouais.
Mais il y a l'alimentation, il faut vraiment préparer des menus. Pour garder quand même de l'énergie, là, parce que je vais pas faire un marathon, mais je vais quand même être assis pendant 5-6 heures, puis les épaules, les poignets. Fait que on a un programme adapté aussi que je dois faire en chemin.
Oui.
Puis avant ça, ben c'est d'essayer de garder un petit peu de force. Fait que je fais toujours mes exercices sur chaise à 4-5 fois par semaine. Là. J'ai
un programme.
Ouais, un programme de ça, là. Ouais. Mm-hmm.
Dans un article qui m'a aidé beaucoup, là, un article dans la presse récemment, tu disais que durant ce périple, tu veux faire connaître la SLA et ses conséquences pour les familles. Comment tu envisages faire ça?
Oui. Ben, en fait, je peux dire que SLA Québec, là, si jamais quelqu'un nous écoute et qu'ils ont des besoins au Québec, là, sont vraiment super.
Oui.
C'est vraiment une référence qu'on peut téléphoner. Moi, c'est quand... Étant donné que c'est une maladie rare, personne ne peut t'aider. Puis eux, ils sont vraiment là pour te guider, puis avec ta famille aussi. Puis moi, ben dans le fond, pour sensibiliser à l'essai là, on va faire des entrevues avec des personnes qui sont atteintes en chemin. Puis c'est surtout pour montrer aux personnes qui sont malades présentement qu'il y a quand même de l'espoir. Là.
Mm-hmm.
Même si certains sont dans leur chaise roulante, ne peuvent pas bouger. Il y en a d'autres qui sont sur respirateur dans leur lit aussi. Peut bouger, mais pendant ce temps-là, ben il y a de quoi qui se passe. Là. Je veux montrer que ça bouge. Les chercheurs ici au Québec sont vraiment super. Il y a beaucoup de mobilisation dans le monde. Puis moi, j'en ai vu beaucoup en Europe et aux États-Unis, mais j'en voyais moins au Canada. Fait que je me suis dit, ici aussi, il faut qu'on en parle, là, parce que faut que ça bouge. Là. Ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas de médicaments. Puis je comprends que les gens sont comme frustrés de ça. Quand tu as la maladie, tu te dis, ben il n'y a aucune chance de survie, mais je veux que cette frustration-là se transforme en espoir. Là.
Oui. Déjà qu'il y a un médicament qui ralentisse la progression, ça fait partie de l'espoir. Mais...
Oui, mais c'est juste 2% des cas, par contre.
Oui, tout à fait.
Et
le fait aussi qu'il y ait peu de gens qui soient touchés par cette maladie-là fait que probablement les fonds ne sont pas toujours dirigés dans la recherche de cette maladie.
Oui, ça n'en a pas beaucoup. Puis aussi, les personnes, ben ils décèdent tellement vite qu'ils n'ont pas le temps d'en parler. Puis
oui.
Les proches aidants aussi, ils n'ont pas le temps d'en parler, puis ça passe dans un tourbillon.
Oui, tout à fait.
Alors, moi, j'ai la chance vraiment de pouvoir penser vivre encore quelques années. Fait que je veux servir de ça pour être la voix des personnes qui en ont moins, là.
Comment va ta famille aujourd'hui?
Oui, ben moi, je pense que ça va très bien. Mes enfants, étant donné que j'ai un bon moral, ils se permettent un peu de me chialer après. Comme on
dit. d'être des vrais adolescents?
Oui, c'est ça. C'est ça, t'es dingue, et puis là, t'échappes tes affaires trop souvent, des choses comme ça. Ça fait que ça, je pense, ça veut dire que j'ai un bon moral puis on a une bonne attitude à la maison. Là.
Mm-hmm. Est-ce qu'on va pouvoir suivre ta progression à partir du 22 septembre?
Oui, ben oui, certainement. On va mettre un groupe Facebook en ligne le 1er août qui va s'appeler La Grande Traversée SLA.
Mm-hmm.
Puis, entre-temps, ben, il y a mon Facebook personnel, Yannick Richard, qui est à jour aussi. Mais ça va être vraiment par le groupe Facebook là, qu'on va faire ça. Puis on a plusieurs commanditaires. On va faire tirer des produits du Québec aussi en chemin. On veut vraiment que ça soit une belle une activité en même temps de plaisir. Là.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et souvent, ces activités-là sont là pour recueillir de l'argent. Est-ce qu'on va pouvoir t'aider dans le financement de la recherche?
Oui. Ben oui, certainement. Ben il y a dans les dons, il va y avoir deux parties. Il y a une partie pour un financement d'un véhicule adapté pour la famille, puis aussi la partie pour SLA Québec, directement pour les familles et la recherche.
Puis ça va commencer ça aussi le 1er août?
Oui, à peu près dans ce coin-là, oui.
OK. Je pense que ça fait vraiment le tour de ce beau projet-là. Je te souhaite, Yannick, une traversée du Canada au moins à la hauteur de tes espoirs à toi.
Ben oui.
Et l'énergie de pouvoir réaliser encore plusieurs autres rêves, c'est le souhait que je te fais de tout mon cœur.
Ben, j'aimerais ça vraiment. C'est très gentil.
Alors, merci pour cette belle conversation-là et je te souhaite un bon parcours à partir du 22 septembre.
Bon, ben c'est très apprécié. Merci du temps puis à la prochaine. Bonne
merci.
Journée.
Au revoir.
Au revoir.
Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fond. Tu sais qu'elle est à moitié folle. C'est pourquoi tu veux rester sur un plateau d'argent. Elle te sert du thé au jasmin. Et quand tu voudrais tu n'as pas d'amour pour elle. Elle t'appelle dans ses ondes et laisse la mer répondre que depuis toujours tu l'aimes. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés. Une flamme brûle dans ton cœur. Il était un pêcheur venu sur la terre qui a veillé très longtemps du haut d'une tour solitaire quand il a compris que seuls les hommes perdus voyez. Il a dit qu'on voguerait jusqu'à ce que les vagues nous libèrent. Mais lui-même fut brisé bien avant que le ciel s'ouvre. Délaissé presque un homme, il a coulé sous votre sagesse comme une pierre. Tu veux rester à ses côtés. Maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés. Une flamme brûle dans ton cœur. Suzanne t'emmène écouter les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Comme du miel, le soleil coule sur Notre-Dame des pleurs. elle te montre où chercher parmi les déchets, les fleurs, dans les algues, il y a les rêves des enfants au petit matin qui se penchent vers l'amour. Ils se penchent comme ça toujours et Suzanne tient le miroir. Tu veux rester à ses côtés, maintenant tu n'as plus peur de voyager, les yeux fermés, une blessure étrange dans le cœur.
Soit vous avez reconnu la chanson, soit vous avez reconnu le chanteur, soit vous savez exactement ce que je vais dire.
C'est Suzanne.
De Leonard Cohen.
Non, il est mort.
Oui, et c'est la chanson, oui, Suzanne de Leonard Cohen,
oui, oui, oui.
Chantée par Alain Bachung.
Oh, wow! Vous savez, Mathieu, qu'il va falloir que je réécoute les 4 émissions pour prendre en note toutes les pièces que vous avez présentées. C'était fabuleux. De mon côté, je termine ça avec quelques nouvelles prises un peu partout, dont une aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Grégory Charles va être au petit écran à la prochaine saison, à l'automne. Il sera à la barre de 2 émissions, dont une sur les effets de la musique sur l'Alzheimer. En plus de co-animer la nouvelle compétition musicale de Télé-Québec Piano Public avec Viviane Audet, Grégory Charles pilotera cet automne la nouveauté d'Amis Télé, Tous en cœur. La série s'intéressera aux effets de la musique sur le cerveau humain, plus précisément sur celui des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les effets de la musique sur le cerveau sont hallucinants, s'est exclamé Grégory Charles lors d'une entrevue avec l'agence QMI sur le plateau de Piano Public. Et c'est comme une cure de jouvence continuelle. Ton cerveau rajeunit si tu en fais beaucoup. Quand on analyse le cerveau des gens qui font de la musique, pas nécessairement des vedettes, on constate qu'il est entre 15 et 20 ans plus jeune que celui du commun des mortels, a ajouté l'animateur, dont la mère, Pierrette Saint-Martin, est décédée en 2017 des suites de la maladie d'Alzheimer. Dans le cadre de son émission, le musicien a suivi une 15aine de personnes atteintes de cette maladie, âgées de 40 à 80 ans, 40 ans, mon Dieu, avec qui il a monté un spectacle. À l'aide de la science et d'outils de mesure comme des capteurs et du monitoring, les chercheurs qui ont analysé le cerveau des participants pendant les répétitions ont pu démontrer que l'état de confusion qui existe généralement dans leur quotidien se dissipait pendant les 50 minutes où ils faisaient de la musique. Et cette espèce de clarté que ça crée, ça reste pendant une demi-heure, une heure après les répétitions, après avoir fait de la musique ensemble. Ils ne font pas juste se souvenir, ils sont aussi capables d'apprendre de nouvelles pièces, a ajouté Grégory Charles. Donc, j'espère que je vous ai donné le goût, parce que moi, je me suis donné le goût de regarder cette émission cet automne. Le concours CLIC, puis je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire CLIC dans ce cas-ci, aide des entreprises de technologie axées sur la santé à concrétiser leurs idées. C'est un article de Kayla DePape qui a été publié le 7 juillet sur le reportermcgill.ca. Les innovations gagnantes de jeunes pousses de Starter soutenues par l'Université McGill visent à redonner à des enfants leurs fonctions motrices et à offrir aux femmes des soins moins douloureux. Pendant sa formation en neurosciences, Roberto Felipe Salamanca Giron a travaillé avec Emma, une jeune fille atteinte d'une infirmité motrice d'origine cérébrale à l'esprit vif qu'il n'oubliera jamais. C'est à ce moment qu'a commencé à germer l'idée de créer Fantasia I, comme AI là, pour l'intelligence artificielle. outil alimenté par justement l'intelligence artificielle, conçu pour redonner de l'autonomie aux enfants paralysés par une infirmité motrice d'origine cérébrale, un accident vasculaire cérébral ou une lésion de la moelle épinière. La jeune pousse de Roberto Felipe est l'une des 7 entreprises lauréates de l'édition du printemps dernier du concours d'innovation clinique CLIC, concours d'innovation clinique, de l'Université McGill. Chapeautée par le Centre de simulation et d'apprentissage interactif Steinberg de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, le concours offre du financement, du mentorat et un accès clinique afin d'aider les membres de cette faculté à transformer en solutions concrètes des idées prometteuses dans le domaine des soins de santé. Le prototype de Fantasiae sert à reprogrammer le système nerveux grâce à la neurostimulation sans chirurgie ni implant. Étant donné que l'état et les objectifs de chaque enfant sont différents, la stimulation doit être adaptée. Lauréat du prix de l'innovation clinique en pédiatrie, Roberto Felipe a reçu 4 000 et la possibilité d'obtenir jusqu'à 16 000 en financement de contrepartie. Cet automne, il mènera une étude de faisabilité au CHU Sainte-Justine et établira une collaboration clinique avec Marie-Hélène Boudria, professeure agrégée à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université McGill. Et je termine... Oui, j'ai un peu de temps. Donc, on a appris il y a quelques semaines que le joueur de hockey Noah Dobson va jouer avec le Canadien cet automne. Il a choisi le numéro 53. Et on a appris... Ça, c'est sur le site marqueur.com. On a appris pourquoi il avait choisi le numéro 53. D'abord, il aurait choisi le numéro 8 parce que c'est le numéro qu'il portait avec les Islanders de New York, mais il était déjà pris avec Mike Matheson à Montréal. Alors, il a décidé de choisir un nouveau numéro pour débuter son aventure avec le Canadien. Et il a pris le numéro 53 parce que le grand-père de Noah Dobson est malheureusement décédé à l'âge de 53 ans de la sclérose en plaques. Alors, c'est un peu pour lui faire un petit coup de chapeau qu'il a fait ce choix-là. Alors, au plaisir de voir d'abord le grand talent de ce joueur de défense-là avec le Canadien de Montréal, d'une part, et d'autre part, de savoir que le numéro 53 a une signification bien particulière dans son cas. Alors, voilà pour Noah Dobson. Je termine tranquillement cette émission. Je voulais dire un grand merci à Mathieu Tessier, non seulement pour ses choix musicaux, mais aussi pour son soutien pendant ces 4 jours. Ça a été un grand plaisir. À l'émission d'aujourd'hui, je voulais aussi souligner la participation de Chantal Lavoie en musique classique, Monique Kirouac qui nous a appris quand prendre nos douches, et finalement de Yannick Richard pour son défi sur la SLA. Ça a été un grand plaisir de vous accompagner pendant 4 jours et je laisse la chaise à Denis Martin Chabot qui sera là lundi 9h30 au quotidien.